11, hein, c'est ce qui correspond dans la brochure bleue, là, au jour 10, que j'ai intitulé aux sources de l'intelligence chrétienne, Cana, Nazareth, Jean le théologien et la Vierge Marie. Et depuis hier, tout se ramasse dans l'expression « monter à Jérusalem ». On va se demander comment géographiquement on peut monter à Jérusalem, qui n'est que aux environs de 800 mètres, quand on vient de l'Hermont, qui frôle les 3000 mètres. Eh bien, on ne peut faire cela qu'en progressant dans le sens de l'approfondissement. Alors, notre terrain d'opération aujourd'hui, ça va être la base Galilée. 30 ans de vie cachée pour 3 ans de vie publique. Alors, hier, c'était la présence à travers laquelle on rejoignait Jésus, c'était celle de Pierre, l'ordinaire du lieu. Et aujourd'hui, deux présences vont dominer, celle de Jean et celle de la Vierge Marie. Mais on va reprendre cette route qu'on ne se lasse pas de faire, là. Vous voyez, les falaises d'Arbel sont là juste en face de l'endroit où on est encore maintenant. Maintenant, on va refaire le tour du lac par le nord-est, et puis le nord, et puis le nord-ouest, et puis commencer notre périple en Basse-Galilée par les falaises d'Arbel, là où nous avons commencé notre périple autour du lac. Alors, pour vivre intensément cette nouvelle journée qui est devant nous, on va commencer par le principal, on va prier, et on va chanter ce psaume invitatoire, et je vais écouter ici les moniales et les moines du Bec-et-Loin.
Aujourd'hui, je vous écoute sa voix. Ne fermez pas votre cœur comme un discorde.
Dans cette retraite, dans ce parcours, nous expérimentons que l'histoire sainte, comme l'ont si bien dit les pères de l'Église, reflète le mystère même dont Dieu nous fait la confidence à la plénitude des temps. Le mystère trinitaire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père dans les déserts du Sud et du Fils dans les chemins de Galilée que nous continuons à parcourir et du Saint-Esprit en montant à Jérusalem dont on n'a jamais fini de pénétrer la signification mystérieuse. Alors si la transition entre au nom du Père et du Fils est très net, rappelez à Jéricho, on est passé de Moïse à Jésus-Christ. Et la transition, là, d'ailleurs, le Saint-Esprit, espérons-le, est présent depuis le début. Mais on va dans le sens de l'approfondissement maintenant. D'ailleurs, comment pourrait-on monter à Jérusalem quand on vient de l'Hermont où nous étions hier, sinon en progressant dans le sens de l'approfondissement? Alors maintenant, nous sommes en Basse Galilée. Nous continuons notre exploration méthodique de toute la Terre Sainte. Nous sommes en Basse Galilée et nous faisons une première étape maintenant dans cette dernière partie de notre retraite. Dans le sens de l'approfondissement. Et nous passons de Pierre à Jean. Rappelez-vous l'histoire qu'on a lue au bord du lac, la finale de Saint Jean qu'on a lue au bord du lac hier. Pierre se trouve restauré dans sa fonction de chef de l'Église après son reniement par Jésus ressuscité. Et puis alors il s'inquiète du sort du disciple bien-aimé de Jean. Et puis Jésus a l'air de lui dire « De quoi te mêles-tu ?» Pierre, c'est un peu l'ordinaire du lieu, au bon sens du pas, l'ordinaire du lieu. C'est ce qu'il y a de plus difficile à trouver dans l'existence, l'ordinaire du lieu. Un homme capable de mettre de l'ordre. Mais alors, il y en a qui vont plus vite, il y en a qui vont plus loin. Vous rappelez, Saint Jean, il court plus vite au tombeau, là, il arrive le premier, il laisse Saint-Pierre se passer, et puis il va plus loin. Pierre, il n'était pas là au pied de la croix. Jean était là, avec la Sainte Vierge. Et tandis que la journée d'hier était enveloppée par la présence de Pierre, là, aujourd'hui, nous allons nous mettre à l'école de Jean, que la tradition appelle Jean le théologien. Et nous allons voir, nous allons monter encore plus loin, et en allant à Nazareth, on va aller vers celle qui est peut-être à l'origine de cette connaissance privilégiée de Jean le théologien qui mène la pensée néo-testamentaire à son sommet, la Vierge Marie, qui a eu du Verbe incarné, en qui réside corporellement la plénitude de la divinité, une connaissance à nulle autre pareille. Vous voyez le plan de cette journée. On pourrait prendre comme guide Nathanaël, puisqu'il est de Cana en Galilée. Vous vous rappelez le récit de la rencontre, il le structure toute notre progression à travers la Galilée. Pierre, André et Philippe. Et puis, vous vous rappelez que Philippe avait un ami qui s'appelait Nathanaël. On a déjà lu le récit de la vocation de Nathanaël, vous vous rappelez, sous le figuier. D'où me connais-tu? Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et puis, alors, Nathanaël apparaît comme le vrai Israélite en qui il n'y a pas de détour. Il confesse la messianité de Jésus. Et puis, Jésus lui dit, tu verras l'échelle partout plantée. Tu verras l'échelle partout plantée et le Fils de l'homme au sommet. Il apparaît comme le vrai Jacob, le tortueux, là, le farceur dont on a parlé à Bethel. Et le vrai Jacob est appelé à voir l'échelle partout plantée. Et je crois que Saint Jean, à travers Nathanaël, qui a dû exister là-bas à Cana en Galilée, sous son figuier, il c'est certainement un personnage concret, le cœur sur la main. Et mais à travers lui, Jean doit voir le théologien, le type du théologien, non pas celui qui élabore des systèmes, mais celui qui déchiffre l'existence, et puis qui opère cette extraordinaire promotion du congrès à l'universel qu'on ne trouve que dans la Bible. Les événements médités deviennent des mystères. Et on a le paradoxe, là, qu'on trouve dans la pensée biblique, c'est que plus un récit est éloigné, quelquefois, de l'événement qu'il rapporte, eh bien, plus il est riche de signification. Il s'est enrichi d'une signification telle qu'il s'est fait éclater les frontières du temps et de l'espace, et ça devient des mystères. Les événements deviennent des mystères, comme on parle des mystères du rosaire. Alors, Saint Jean, là, n'a pris que 7 événements, mais qu'il appelle des signes, tellement ils sont riches de signification. Et ici, nous sommes, on ne peut mieux placé pour parler des 2 premiers signes de l'évangile de Saint Jean, les noces de Cana, et puis le centurion, pas le fils, non, plutôt, disons plutôt le fils de l'officier royal. Tenez, regardez la topographie. Vous expliquez la géographie de la passe Galilée où nous sommes maintenant, qui est notre terrain d'opération aujourd'hui, et les faits de petites vallées qui vont est-ouest, et de petites chaînes de collines entre ces vallées aussi est-ouest. Mais alors, tandis que, bien que le relief général soit est-ouest, il y a comme une voûte nord-sud, entre la Méditerranée, qui est, on devine là-bas du côté de l'ouest, et puis la dépression, la grande dépression syro-africaine, là, qui est le lac à l'est, là, le lac de Galilée. Et alors une route nord-sud, que vous pouvez voir sur la carte, se sert de cette ligne de crête. Elle est un peu modifiée par les dernières routes les plus récentes, mais dans le jargon ici on l'appelle la route de Beersheba à Beersheba, parce que au pied des montagnes de la haute Galilée qu'on aperçoit là-bas, il y a un Beersheba de Galilée. Et alors voyez-vous, elle suit l'épine dorsale de ce pays jusqu'à Beersheba de Juda. Alors quand on chemine, comme le faisait Jésus de Nazareth ou de Cana, que je vous dessinerai bientôt, vers le lac, vers Migdal et puis Capharnaüm, eh bien la loi du moindre effort commande qu'on franchisse cette voûte nord-sud à l'endroit où c'est le plus bas. Eh bien c'est précisément là où nous sommes. Si vous cherchez sur la carte, il est marqué Khirbet Amoudim. On voit encore une colonne, c'était la colonne d'une synagogue, il y avait une ville de relais, et les caravanes qui cheminaient dans cette magnifique vallée qu'on appelle la vallée de Beit Netofa, ici, franchissez la ligne de partage des eaux, si vous voulez, et puis commencez à descendre, et quand on descend de l'autre côté, on arrive dans les falaises d'Arbel, rappelez, à Migdal et à Capharnaüm. Alors la journée d'hier gravitait autour de Capharnaüm qui devient le centre de la prédication de Jésus. On n'a peut-être pas assez parlé de ça, pas pour 3 raisons. C'est que Jésus, on l'a vu, Nazareth c'était un trou. Et alors, il n'a pas fait de propagande, mais s'il voulait donner un minimum de retentissement à sa prédication, il ne fallait pas qu'il reste dans ce trou en dehors des routes. Il était à Capharnaüm, qui est au bord de cette célèbre Via Maris dont on a parlé. Et le père Corbeau, qui a fait des fouilles à Capharnaüm, a trouvé une borne millière de cette fameuse Via Maris dont on a déjà parlé, dont on reparlera. Vous, terre de Zabulon, terre de Nephtali, voie de la mer, un pays de Transjordan, le pays qui était dans les ténèbres a vu une grande lumière. Il a été à Capharnaüm aussi, peut-être parce qu'à Nazareth, il était mal vu par sa famille. Vous rappelez, on raconte que ses parents, là, ses frères, sa mère, ça veut dire toute sa famille. Bah, les frères, ça a un sens très général dans la Bible. Le poursuivent, le prennent pour un cinglé. Et puis il y a peut-être une autre raison, c'est peut-être que Jésus a appliqué lui-même le conseil qu'il donne à ses apôtres. Quand on vous poursuit d'un côté ou d'un autre, quand on allait plus loin. Et il était à Capharnaüm à la frontière où il y avait le centurion, où il y avait Matthieu le douanier. Et peut-être qu'à un certain moment, poursuivi par la police d'Hérode, il n'a jamais injurié personne, Jésus. Mais il a traité Hérode de renard. Allez dire à ce renard, j'ai fait mon travail jusqu'à ce que mon heure soit venue. Mais peut-être il a passé la frontière et il a été dans le pays de Philippe, jusqu'à l'Hermont, c'est l'itinéraire d'hier. Alors aujourd'hui, si vous voulez trouver Cana, vous n'avez qu'à vous rappeler la route que nous avons déjà faite, comment Tabga, là aux environs, il y a une colline, où était la ville autrefois de Kinneret, et sous la ville de Kinneret, il y a une station de pompage des eaux. du lac de Kinneret. On la reconnaît facilement avec tous les poteaux électriques là. Et alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait cette station un peu plus haut, là où il y a une dénivellation sur quelques kilomètres de 400 mètres environ? Eh bien, c'est parce que les circonstances politiques n'étaient pas possibles, ça rendait ça impossible. Alors on l'a faite là, à 200 mètres en dessous du niveau de la mer, elle est projetée dans un lac artificiel, elle franchit cette ligne, cette voûte nord-sud, et tenez, regardez la ligne blanche qui est là devant nous, au pied de la Lorde du Père Villebrand, la Lorde de Netofa, là-bas, il y a un village là, et en bas vous distinguez une ligne blanche, c'est le fameux canal, qui descend vers la plaine côtière, qui va ensuite rejoindre le Yarkon, et puis qui va irriguer jusque les pays qu'on a vus mis en valeur là, du côté de l'Arriche, le premier jour, si vous vous rappelez encore. Alors si vous voulez trouver Cana, suivez cette ligne blanche, et vous allez voir Cana, je vais vous le désigner, et la ligne blanche, le canal, là, toute cette eau, cette artère vitale du pays, passe à Cana. Si cette eau se pouvait changer en vin, comme une noce de Cana, ce serait extraordinaire, pour la joie du monde entier. Alors Cana, vous allez me dire, on est passé à Kefarkenna. Oui, mais alors là, je renonce à discuter sur les lieux saints. Moi, je me base sur les auteurs, sur les études du Père Abel, et sur, actuellement, je crois que c'est reconnu pour tous ceux qui ont étudié un peu la question. Il ne s'agit pas de Kefarkenna, où on continue quand même à montrer des cruches comme celles qui ont contenu le vin des noces de Cana, mais il s'agit plutôt de Khirbet Cana, avec un Q, avec un Kof, c'est pas du tout la même chose dans les langues sémitiques. Alors, regardez cette ligne de montagne, vous voyez, il y a la Lorde du Père Villebrand, là il y a ce village, il y a ensuite une montagne un peu moins haute, et puis une montagne un peu plus haute, et puis une montagne là-bas dans la brume, et si vous regardez sur le fond de cette montagne sombre, vous avez une colline plus claire, beaucoup plus basse. Et bien c'est l'acropole de la ville de Cana, qui a le plus de chance d'être authentique d'après les recherches. Que je vous dis à l'occasion si vous me posez les questions.
Alors Cana était une ville assez importante.
C'était une ville assez importante, et on la trouve mentionnée dans un ensemble de trois villes. Dans le palais des rois de Ninive, là on a trouvé, le roi de Ninive se vante des villes qu'il a prises. Alors il y a un ensemble, il y a Yotfata, l'endroit où Flavius Joseph ne s'est pas suicidé, on n'a pas le temps de raconter cette histoire-là, Cana, et puis aussi Renaton, où on a trouvé des ruines très intéressantes là-bas. On ne peut pas parler de tout. Mais alors il se vante des prisonniers qu'il a emportés, on trouve les chiffres, les statistiques. Alors tenez, encore au XIIIe siècle, à la fin du XIIIe siècle, c'est là qu'on emmener les pèlerins. Vous savez tous le latin, là, je vous lis les chroniques. Cana, Galilée, Abaquilone, Montem, Abet, Altum, Trotundum. Non, je l'ai entendu en français. Alors, Cana de Galilée est appuyée au nord sur une montagne haute et ronde. Ça pas mieux que ça. Elle se trouve située sur la pente de cette montagne haute et ronde. Et en contrebas, vers le sud, il y a une plaine de toute beauté que Flavius Joseph appelle Carmélion, celle que vous contemplez, en effet. Bah, elle est magnifique. Et cette plaine s'étend jusque Séphoris, qu'on a aperçu tout à l'heure. Elle est très fertile et elle est très agréable. Fertilem nimis et aminam valde. Alors voilà, nous sommes pas à Cana, c'est pas à peine d'y aller. Je sais pas pourquoi, on a fait des sondages, on a vu qu'il y a des alignements de pierre très, très intéressants, mais les archéologues... autrefois, l'archéologie était au service de la Bible, et maintenant on dirait que la Bible n'est qu'un livre parmi d'autres pour au service des archéologues. Enfin, je sais pas, il y a comme ça... c'est curieux, il n'y a jamais eu de fouilles. Les chrétiens ne sont jamais passionnés pour fouiller ce site. Bon, on peut y aller en roulant dans la boue là maintenant, mais c'est pas la peine. Enfin, on est ici, on voit Cana, on voit l'endroit où on passe nécessairement d'après la loi du moindre effort, Khirbet Hamoudim, et puis si on descend, on aboutit au camp de Hattin, et puis au falaise d'Arbel que nous connaissons bien. Alors nous sommes sur les chemins, et moi je trouve que quand on connaît la géographie de ce pays, les cheminements, croiser nos pas avec ceux de Jésus, c'est encore plus intéressant. Les horizons, les paysages, c'est encore plus intéressant. Quand vous êtes dans une boîte, un bâtiment, vous ne voyez plus le paysage. C'est important, les bâtiments, dans les pays étrangers. Mais dans ce pays, c'est la terre sainte et tous les cailloux gris. Et c'est dommage que nos horizons se rétrécissent dans des bâtiments qui, hélas, ne sont pas tous d'ailleurs très beaux. Il faut bien le dire. Alors, ceci dit, parlons de Cana. Nathanaël, nous le connaissons. Les noces de Cana, je n'y reviens pas. On en a parlé longuement au Sinaï, vous vous rappelez ? Je vous ai montré comment le premier prodige là, qui est à l'origine de l'identité du peuple juif, la mer rouge. Ils virent le prodige, ils crurent en Dieu et en Moïse son serviteur. Hein. Et c'est pas par hasard que Saint Jean, quand il a raconté les noces de Cana, a dit ils virent le prodige et ils crurent en lui. Faites l'équation. Et les noces de Cana dans l'évangile de Saint Jean, qui est au sommet de la pensée néo-testamentaire, fait inclusion avec la croix. Et la femme est présente, là, nommée solennellement aux noces de Cana comme à la croix. Femme, voici ton fils. Femme. Et quand Jésus, je résume simplement ce que j'ai dit déjà au Sinaï, qu'on a longuement médité sur le premier signe qui est le plus riche et qui fait du mariage un sacrement. Toute l'histoire sainte, l'alliance avec ses résonances nuptiales et cantiques des cantiques qui est au milieu. Ils n'ont plus de vin. Mon heure n'est pas encore venue. Quand mon heure sera venue, hein, et il ne s'agira plus de donner du vin pour la gaieté d'une noce de village, faisons-le. C'est le premier des signes. Mais il s'agira de verser mon sang, le sang de la grappe. Le vin, c'est le sang de la grappe, pour la consommation des noces de la nouvelle et éternelle alliance. Bon, je ne reviens pas sur les noces de Cana. Vous êtes d'accord? Vous n'avez pas de questions à poser là-dessus?
Simplement une chose qui est intéressante à relever, là, c'est femme, très souvent, cette expression, certains commentateurs disent, bon, femme ne savent pas comment s'en tirer, une espèce d'éloignement de distance, alors que...
Alors ça, là, c'est moi je ne sais solennel. Pas, mais j'ai entendu des professeurs qui disaient qu'au fond, il y avait un petit peu l'équivalent du récit de la tentation dans les évangiles synoptiques. Jésus n'a pas eu envie d'aller trop vite dans la vie publique. Il entrevoyait avec sa lucidité, alors son intelligence était d'une lucidité extrême, le caractère tragique qu'allait prendre sa mission messianique. Et alors on dirait qu'il a comme... il a été homme avec tous les sentiments qui nous habitent. Mis à part le péché, il a pris la condition humaine sans tricher. Il ne devait pas avoir envie de rentrer trop vite dans sa vie publique. Mon heure n'est pas encore venue. Et 30 ans de vie cachée dans ce pays que nous parcourons maintenant, dans cette première journée d'approfondissement, moi je crois que ta question est intéressante parce que je crois que c'est là qu'est la vraie réponse. C'est pas un refus, mais c'est une espèce d'angoisse. D'ailleurs, il le dit lui-même. J'ai désiré d'un grand désir boire cette coupe, être plongé dans ce baptême, et puis en même temps, c'est le début de ce qui aboutira à la sueur de sang de l'agonie. On approfondira ça demain. Ce soir, d'abord, on verra le thème de la femme dans la Bible. Vous allez voir, comme quand on verra les horizons sud, maintenant on voit les horizons nord qu'il avait en se promenant autour de Nazareth. C'est le cadre de ses options messianiques. Cet après-midi, on verra les horizons sud, la plaine d'Esdrelon, vous connaissez déjà en partie. Et vous verrez que les récits qui vont surgir dans notre mémoire, eh bien, vont nous inviter à méditer sur ce thème de la femme dans la Bible. Bon, alors, je ne m'arrête pas au premier signe, il y a Nathanaël, le vrai Jacob. On va maintenant passer au deuxième signe. Vous rappelez ce qui se passe après les noces de Cana? Une histoire amusante qui me vient ici. Ça me vient d'un très vénérable professeur, toujours vivant. Alors c'était à l'époque où il y avait des grands amphis, hein, et on priait avant, et puis alors solennellement, le professeur faisait un cours ex cathedra, et puis il parlait des noces de Cana. Alors, moi, j'ai mon opinion sur la noce de Cana. J'ai mon opinion. Maintenant, comme c'est une opinion personnelle, je descends de chair pour l'exprimer. Moi, je sais pourquoi le vin a baissé si vite à Cana. Rendez-vous compte, ces pauvres apôtres, ils étaient à l'école de Jean-Baptiste, qui bouffaient des sauterelles, qui buvaient de l'eau. Alors, ils arrivent là, ils ont dû se rattraper. Bon, c'est une opinion personnelle. Ceci dit, je remonte en chair. C'est pas impossible, hein? C'est pas impossible. Bon. Alors, il manifesta sa gloire, ses disciples crurent en lui. Alors, ensuite, il va à Jérusalem. Il y a trois montées à Jérusalem dans Saint Jean, hein, des fêtes qui ne se produisent qu'une fois par an, si bien qu'on peut en conclure, et on ne pourrait pas le faire autrement, que son ministère public a duré au moins 3 ans. Mais d'après les synoptiques, c'est tellement schématisé qu'on pourrait croire que ça n'a duré qu'un an. Il n'est monté à Jérusalem qu'une fois pour y mourir et y ressusciter. Mettons à part l'évangile de l'enfance pendant Saint Matthieu et dans Saint Luc. Bon, alors là, il y a la fameuse histoire de la purification du temple. Détruisez ce sanctuaire, entre jours je le relèverai. Et on comprend qu'il dit ça de son corps, du sanctuaire de son corps. Il séjourne à Jérusalem, il y a l'entretien avec Nicodème, que nous avons lu, rappelez-vous, quand nous avons franchi la frontière sud de Canaan. Vous rappelez le serpent d'airain, là? Si tu ne renais pas de l'eau et l'esprit, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Tu es maître en Israël et tu ignores ces choses. tu ne les saisis pas. Nicodème et Nathanaël, bon, sont tous les deux des rabbins, ils connaissent bien l'écriture. Nicodème, tandis que Nathanaël est le cœur sur la main, il rebondit dans l'enthousiasme. Nicodème, lui, bah, il va bien y avoir de nuit, puis il prendra le parti de Jésus, il sera là encore à la fin. Mais c'est tout doucement, vous voyez, différents tempéraments. Nous sommes rencontrés, encore une fois, dans notre diversité, telle que nous sommes là où nous en sommes. Et puis alors ensuite, mais le contexte nuptial de toute cette histoire, Saint Jean, je ne suis pas le Christ, je suis envoyé devant lui, qui a l'épouse et l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là, qui l'entend, est ravi de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie, elle est complète. Il faut que lui grandisse et que moi je décroisse. Ensuite, Jésus va chez les Samaritains. On a lu aussi l'histoire de l'entretien avec la Samaritaine, lorsqu'on a parlé du culte en esprit et en vérité. Alors ensuite, Jésus revient en Galilée. Et nous avons ici, hein, et alors ici le cheminement, nous sommes vraiment sur la route, on voit l'aller-retour. Il retourna à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. C'est au chapitre 4, verset 46 de Saint Jean. Il y avait un fonctionnaire royal, et à mon avis, je ne crois pas que ce soit le même personnage que le centurion. Hein, et on le confond souvent. L'autre jour, on lisait ce récit dans la liturgie et on avait mis le centurion à la place de l'officier royal. Un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Apprenant que Jésus était arrivé de Judée en Galilée, il s'en vint le trouver et il le priait de descendre guérir son fils. Vous savez, il passe à la ligne de partage des eaux et puis il descend. Bon, Jésus lui dit, si vous voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. Le fonctionnaire royal lui dit, Seigneur, descends avant que ne meure mon petit enfant. Jésus dit, va, ton fils vit. L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il se mit en route. Déjà, il descendait. Il avait passé le point où nous sommes. Déjà, il descendait en direction des falaises d'Arbel, et de Migdal, et de Capharnaüm. Quand ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui dirent que son enfant était vivant, il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, c'est hier, à la septième heure, que la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était l'heure où Jésus lui avait dit, ton fils vit, et il crut, lui, avec sa maison tout entière. Et ce nouveau signe, le second, Jésus le fit à son retour de Judée en Galilée. Et ça ne me paraît pas du tout que, tandis que Nathanaël est le type de l'Israël qui connaît la loi et les prophètes et qui vient à Jésus, eh bien, l'officier royal soit un païen et qu'il vienne lui aussi à Jésus et que Saint Jean ait exprimé ici un des thèmes fondamentaux du Nouveau Testament, c'est que dans le Christ, eh bien, viennent se réunir les deux grands courants qui forment l'Église primitive, l'Église de la circoncision et l'Église de la gentilité. Si tu étais à Sainte-Sabine, à Rome, on voit encore un tableau qui montre ces deux courants qui forment l'Église. Alors je ne sais pas pourquoi ici, est-ce dans l'ivresse de l'Esprit Saint, du vin des noces de Cana, il y a beaucoup d'analogies entre le vin et puis l'Esprit, eh bien je suis comme projeté vers l'épître aux Éphésiens. Ou alors Saint Paul, enivré de l'Esprit Saint, s'émerveille devant le dessein de Dieu qui se déroule d'un bout à l'autre de l'histoire et dont le but est la récapitulation. Anakephalaiosestai. Il a dû inventer un mot grec compliqué pour exprimer ça. Tout ramener sous un seul chef, les êtres célestes comme les êtres terrestres, dans l'unité posée au centre. Vous direz, on ne sait pas où mettre les virgules, tellement l'extase. Et c'est une espèce d'ivresse. Et alors, au chapitre 2, c'est lui qui est notre paix. Lui qui, des deux peuples, n'en a fait qu'un, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant en sa chair la haine, les préceptes avec ses ordonnances, pour créer en sa personne les deux en un seul homme nouveau et faire la paix et les réconcilier avec Dieu. En un seul corps, par sa croix, il a tué la haine, il est venu proclamer la paix. Paix pour vous qui étiez loin, paix pour ceux qui étaient proches, et par lui, nous avons en effet tous deux, en un seul esprit, libre accès au Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des autres, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes la maison de Dieu. Car la construction que vous êtes a pour fondation les apôtres et les prophètes, et pour pierre d'angle le Christ Jésus lui-même. En lui, toute construction s'ajuste et grandit en un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu dans l'Esprit Saint. Vous vous rappelez comment la demeure dans le désert était d'un seul tenant, Echad, Echad, Echad. Ici, c'est le mystère même de la Trinité, du comment Dieu est un, qui préside à la construction d'un temple dont nous sommes les pierres vivantes. Voyez. Et alors les appartenances éclatent, les frontières, Et le mur, il a connu ce mur. Ben, c'était le mur, vous avez vu la maquette du temple là, qui interdisait aux non-juifs d'aller plus loin. Et saint Paul, dans les Actes des Apôtres, est accusé d'avoir introduit par-delà le mur un païen, un certain Trophime d'Éphèse, et c'est ce qui déclenche les émeutes qui précèdent son arrestation dans le temple de Jérusalem. Et voilà que ça a pris une signification théologique ici. Alors les deux courants, la paix. Et alors, pour saint Paul, il se mêle de parler de morale qu'au chapitre 4. Dans l'ivresse de l'Esprit-Saint, qu'on redécouvre maintenant dans les mouvements charismatiques, là, eh bien, nous sommes appelés à pratiquer une loi encore plus exigeante peut-être, mais qui est inscrite dans le cœur et qu'on exécute comme une partition musicale, qu'on joue dans la spontanéité de la liberté pour l'épanouissement de ce que Dieu a mis en nous quand il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Moi, je crois que c'est très grave, en christianisme, dans l'enseignement. Bon, je reçois quelquefois dans mes groupes, il y a des garçons, des filles qui sont passés par des l'enseignement libre. Bon, qu'est-ce qu'ils ont comme bagage au point de vue de connaissance du dessein de Dieu ? Eh bien, c'est pratiquement zéro. Ils ont eu quelques cours sur la pilule, quelques cours de sociologie, ils sont au courant des problèmes actuels, des règlements de l'Église, mais personne ne les a jamais enivrés du dessein de Dieu. Et c'est très grave de faire l'économie de l'instruction, pas de l'enseignement. C'est très grave. La nouvelle alliance, c'est ça. Et il faut que la loi soit inscrite dans le cœur, et elle est inscrite dans le cœur par l'Esprit-Saint. Et l'Esprit-Saint, c'est une espèce d'ivresse. Et il n'y a pas de possibilité d'exécuter la morale chrétienne sans cette ivresse de l'Esprit-Saint. Publier les règlements de l'Église avant d'avoir enivré les gens de la connaissance du dessein de Dieu pour les inviter à la traduire dans leur comportement, c'est mettre les gens en impasse. Et saint Thomas d'Aquin, c'est pas moi, dans le traité de la loi nouvelle, il dit que la loi nouvelle, elle condamnerait plus que la loi ancienne si elle n'était pas inscrite dans le cœur. Je proteste au passage contre cette économie qu'on fait du dessein de Dieu. Il n'y a pas de reconnaissance sans connaissance. C'est comme ça tout au long de la Bible. Déjà dans le premier langage que Dieu parle dans la nature. On connaît et puis on rebondit dans la reconnaissance. Eh bien, c'est encore plus vrai dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas de morale chrétienne sans un rebondissement de tout l'être. Un rebondissement liturgique, tenez, comme dit saint Paul. Cherchez dans l'esprit votre plénitude. Récitez entre vous des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés. Chantez, célébrez le Seigneur de tout votre cœur, en tout temps et à tout propos. Rendez grâce à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et alors, c'est dans cet élan qu'il parle de la morale domestique et entre autres choses du mariage. Et qu'il dit, ce sacrement est grand. Et moi je dis, par rapport à cette grande histoire d'amour qui trouve son épanouissement, son sens plénier, dans les noces du Christ et de l'Église, que chante tout l'évangile de saint Jean entre Cana et la croix. Et c'est aussi dans le même élan qu'il parle de toute la morale chrétienne. Et puis il dit de vivre dans la prière et les supplications. Et il prie aussi, il demande qu'on prie pour qu'il soit donné à ceux qui sont chargés de parler, aux serviteurs de la parole, cette vertu capitale qu'est la hardiesse. Annoncer hardiment le mystère de l'évangile. Obtenez-moi, dit saint Paul, la hardiesse d'en parler comme je le dois. Et de ne pas faire l'économie de l'enseignement, de la connaissance, pour que la vie humaine devienne, comme dit aussi l'Épître aux Hébreux, sans que vous mangiez, sans que vous buviez, tout ce que vous faites, faites-le dans l'Esprit Saint. Il a purifié nos cœurs des œuvres mortes pour que notre vie devienne une liturgie à la gloire du Dieu vivant.
Je voudrais vous faire entendre ici une antienne merveilleuse de la liturgie de l'Épiphanie que les moines et les moniales du Bec-et-Loin ont mise en musique, ou dans l'ivresse de l'Esprit Saint, alors les mages, le baptême dans le Jourdain, et puis les noces de Cana, tout ça est mélangé comme dans une tapisserie merveilleuse.
Aujourd'hui l'Église est unie à son époux céleste, car il pleine dans les eaux du Jourdain, a purifié de toutes ses souillures. Aujourd'hui
Ça vient d'une antienne qu'on chantait autrefois à la fête de l'Épiphanie en grégorien.
Oh,
pense qu'on est passé comme ça de Cana à Éphèse. Moi, je pense que je devais avoir dans mon subconscient là, l'histoire des Actes des Apôtres. On dit que Saint Paul, tandis qu'Apollos était à Corinthe, ça racontait au chapitre 19 des Actes des Apôtres. Paul, après avoir traversé le Haut-Péri, arriva à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur dit « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez embrassé la foi ?» Ils répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Et lui, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?»« Le baptême de Jean, » répondirent-ils. Paul dit alors Jean a baptisé d'un baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Assez beau, ils se virent baptisés au nom du Seigneur Jésus, et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et prophétiser, et ces hommes étaient en tous une douzaine. Et je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens actuellement qui vivent un peu comme les Johannites d'Éphèse, là, qui ne savent même pas que l'Esprit Saint existe, alors que, rappelez-vous, tout ce qu'on a dit là, quand on est descendu au pas plus profond du globe, là, la nouvelle alliance, en quoi consiste essentiellement sa nouveauté? Eh bien, c'est l'Esprit Saint qui inscrit la loi dans le cœur. Et il faut pour en sortir cette loi que dit nos pères, ni nous n'avons pu porter, dit Saint Pierre au premier concile de l'histoire de l'Église à Jérusalem. Il faut qu'elle soit inscrite dans le cœur. C'est là qu'est la nouveauté de la nouvelle alliance. Et connaître l'Esprit Saint, ne pas en vivre, ne publier que les règlements de l'Église sans, encore une fois, cette ivresse de l'Esprit Saint, eh bien, c'est pas possible, c'est pas chrétien, c'est la loi nouvelle, comme dit saint Thomas d'Aquin, c'est pas moi qui tuerais plus encore que la loi ancienne si elle n'était pas inscrite dans le cœur. Encore une fois, tout le Nouveau Testament, c'est ça. C'est dans ça qu'il est vraiment nouveau, surtout. Enfin, il y a bien sûr un supplément de connaissances, mais c'est surtout toute la loi qui est inscrite dans le cœur. De sorte qu'elle est proposée aux spontanéités de notre liberté pour qu'on l'accomplisse, comme la sagesse qui joue devant Dieu et pour le plein épanouissement de ce que Dieu a mis en nous de meilleur quand il nous a créés à son image et à sa ressemblance, pour qu'on forme, nous qui sommes tous des pierres vivantes destinées à entrer dans le temple de Dieu, un temple qui reflète non seulement l'unité de Dieu comme la demeure de l'Ancien Testament, mais le comment de Dieu, le comment Dieu est un, cette confidence que Dieu nous a faite à la plénitude des temps, du comment il est un, ce qu'il soit un comme nous sommes un. Et les communautés chrétiennes qui vivent de cette unité-là n'auraient même pas besoin de prêcher la bonne nouvelle. Elles deviendraient des pôles d'attraction, comme au temps des Actes des Apôtres, qui seraient plus efficaces encore que tous les sermons, toutes les conférences et toutes les prédications même.
Alors on va continuer sur Nazareth, voir si c'est quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth, ça peut être. Et puis ensuite, quand le soleil aura tourné vers l'ouest, on sera admirablement placé pour voir la plaine d'Esdrelon, hein, qui est toute chargée de souvenirs, et nous parlerons, là vous allez voir que nous allons être amenés à parler du thème, j'aime pas ce mot-là, de la femme dans la Bible.